Merci Anne Fauquemberg, bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à Dijon, dans les studios de France Bleu Bourgogne. Sur la route, Julie Gacon, avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Et ben moi, je sais ce que je ferais si le gars du guide Michelin venait manger à la maison.
Alors, bon, pour cette recette, je préconise la pomme de terre de l'île de Bas. Tout commence par la pluche. Alors, il faut calibrer l'économe. Ni trop gros, ni trop petit. Trop économe, c'est radin. Bon, évidemment, on rince la pomme de terre. À l'eau, ni trop chaude, ni trop froide. Je préconise 38 degrés. Bon, alors ensuite, le découpage de la patate. Veillez à ne pas faire de carré. Trop symétrique, pas bon pour la mastication. Huile d'olive, pour le médecin. Donc on attend que la poêle soit bien chaude. Quel type de poêle? Bah, une poêle, tout ce qu'il y a de plus poêle. Hein. On va pas faire des manières non plus. Alors, sel poivre, bien sûr, mais on évite le sel de Guérande. Parce qu'avec la pomme de terre de l'île de Bas, ça fait un peu folklorique. Hein. Mauvais goût. Le poivre d'Équateur, ni trop au nord, ni trop au sud. Et de temps à autre, dans un geste maîtrisé, précis, on agite la poêle d'avant en arrière. La règle, c'est que la pomme de terre ne doit pas perdre le contact avec la poêle. Sinon, c'est des pommes de terre sautées. Voilà, j'ai élaboré cette recette après plusieurs voyages, avec des longues discussions avec mon arrière-grand-mère avant qu'elle ne meure. Et j'ai appelé ce plat le don de la terre. Bon alors, c'en est où ? Oh non ! Une pomme de terre brûlée. Adieu mon étoile.
Évidemment, vous pouvez retrouver notre recette inédite sur Internet, au milieu de millions d'autres, puisqu'aujourd'hui, c'est peu de le dire, la cuisine fait recette, émission télévisée à grand succès, magazine spécialisé, site de notation où chacun joue les critiques, boutique de matériel high-tech et même tout récemment un MOOC cuisine, un de ces cours en ligne ouverts et gratuits pour susciter des vocations. Et au milieu de cette tambouille très tendance, un vestige, une relique, presque un incunable, le guide Michelin et ses étoiles. Sa parution est aussi médiatisée et commentée que les Césars, les Molières ou les Goncourt. Mais peut-être finalement qu'on en parle plus qu'on ne s'y réfère. Je ne sais pas, nos deux invités l'ont-ils épluché, ce guide Michelin, le 1er février dernier, pour connaître les têtes qui sont tombées et les nouveaux noms qu'il va falloir surveiller. Je vous pose la question à vous. William Frachot, qui tenait une bonne place avec vos deux étoiles, vous l'avez regardé.
Bonsoir. On regarde toujours ça. Position, sa place et si tout y est.
Et les autres.
C'est le plus important. On a toujours des amis, des confrères, on jette toujours on a des gens, on va parler d'Angelo que je suis depuis quelques années.
Angelo Ferrigno qu'on entendra tout à l'heure.
C'était un réel plaisir pour moi de voir ce jeune pouvoir avoir sa première étoile et j'ai tout suivi, ça m'a rappelé mon jeune temps, on va dire, mais c'était formidable.
Ouais. Vous êtes, William Frachot, le chef propriétaire du restaurant de l'Hostellerie du Chapeau Rouge à Dijon, restaurant 2 étoiles, c'est bon, la description dans le Michelin est conforme à ce que vous servez, à ce que vous présentez.
Ouf, oui.
Ouais, ça va.
C'est bon. Passé.
Vous, Philippe Toinard, j'imagine que vous êtes obligé pour vous informer puisque vous êtes chroniqueur gastronomique. Bonsoir. Donc vous
Bonsoir.
L'avez, vous le connaissez par cœur en fait, le Michelin, non ?
Pas par cœur, non. Je suis un peu comme William. Je vais voir des gens que j'aime bien ou je m'attriste pour d'autres qui ont perdu. Et avec mon cœur en Bretagne, que c'est les premières pages que je regarde, c'est d'abord la Bretagne.
D'abord la Bretagne. Vous êtes breton, donc rédacteur en chef d'une revue culinaire semestrielle, donc entre le magazine et le livre, ce qu'on appelle désormais un MOOC.
C'est
un MOOC, c'est ça ?
MOOC culinaire.
MOOC culinaire, 180 degrés, qui travaille donc à découvrir et à mettre en valeur des pépites en province. J'imagine que vous venez souvent en Bourgogne.
Oui, souvent, il faut se partager, hein, parce qu'il y a, bon, il y a plus 22 régions, il n'y en a plus que 12, mais on essaye d'être, sur les 6 derniers numéros, d'être assez exhaustif et de faire le tour de France.
Bon, on est quand même sur une région étoilée. par excellence.
Ah, au kilomètre carré, il y en a beaucoup.
Votre magazine, d'ailleurs, 180 degrés, on parlait de la tendance culinaire. Vous répondiez à une demande. Vous publiez à combien d'exemplaires? Ça marche bien?
Ça marche très bien. On n'a pas forcément répondu à une attente. Éric Fesneau, le créateur du magazine, cherchait un magazine de cuisine. On dira presque pour lui au départ. Or, la cuisine en kiosque est plutôt féminine et pas très masculine. Nous, on a le droit au magazine sur le vin et les femmes ont le magazine sur les recettes. Et nous, Éric voulait un magazine qui ressemble à l'être humain dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on trouve dedans à la fois des recettes, à la fois du vin, à la fois des hommes, à la fois des passionnés d'agriculture, qu'on puisse lire ça et surtout ne pas le jeter parce que c'est un livre, donc on le garde toute sa vie.
Bon, les cuisines des restaurants gastronomiques, elles, sont encore très masculines. William Frachot, parlez-nous un petit peu de vous. Avant le Chapeau Rouge, l'hôtellerie du Chapeau Rouge, vous êtes passé par quelle cuisine? Vous avez un parcours assez bourguignon quand même dans l'ensemble.
Oui, scolairement parlant, j'ai beaucoup travaillé pendant mes week-ends et vacances scolaires dans toutes les maisons de la région. Puis par la suite, je suis parti à l'étranger. Je me suis beaucoup formé avec, comme j'ai fierté de le dire, avec mes billets d'avion. Et j'ai eu la chance de découvrir la maison L'Oiseau du temps de Bernard, la maison La Meloise, ainsi que Monsieur Fabrice Gillotte, meilleur voyer de France, chocolatier à Dijon, qui m'a apporté une corde supplémentaire à mon arc.
Voilà. Et votre deuxième étoile date de 2013. Est-ce qu'on peut plus ou moins ensemble essayer de donner une définition de ce que c'est qu'un restaurant? Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ça veut dire quoi en fait?
Écoutez, c'est très compliqué. Ce serait difficile pour moi de le déterminer avec exactitude. Je pense qu'une étoile, c'est la naissance d'un chef. La deuxième étoile, c'est une équipe avec les produits qui vont bien avec. Et la troisième, c'est une maison. Donc, il y a une âme, mais c'est un petit peu la vision que j'en ai aujourd'hui.
Il y a la notion de perfection aussi, sans doute, dans la troisième étoile. À force, les critiques, les inspecteurs du Guide Michelin, vous devez bien les connaître. Ils sont dans le coin, ils vivent en Bourgogne.
Je défie quiconque de mettre un nom dessus et de les repérer, de les connaître.
Philippe Thomas.
Non, c'est vrai que, en tant que journaliste ou en tant juste que gourmand, on n'a pas les critères du Guide Michelin. En fait, on ne les connaît pas très, très bien. C'est parfois un peu obscur, parce qu'il y a des maisons dont on pense qu'elles devraient l'être, étoilées. D'autres qui le sont, alors que franchement, c'est parfois des catastrophes. D'autres qui sont des intouchables, voilà, et resteront toute leur vie à deux ou trois et bougeront jamais, même si c'est mauvais aujourd'hui. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est les intouchables. Après, pour le reste, l'essentiel, c'est que la personne qui y aille prenne du plaisir. C'est ce qui compte d'abord, avant les étoiles.
Les inspecteurs du Guide Michelin, en tout cas, le Guide Michelin dit que ce qui compte, c'est ce qui est dans l'assiette, et rien que ce qui est dans l'assiette. Le reste, c'est du détail, déco de la salle, qualité du service ou l'âge du capitaine.
Vendredi soir, pour combien de personnes, monsieur? 4 personnes. Non, j'aurais plus la place. Je suis vraiment désolé. Je vous en prie, monsieur, bonne journée. Au revoir.
Merci, vous êtes retrouvés avec en direct ces 3 secrets pour suivre de riz une tarte. Allez.
Angelo Ferrigno, c'est donc vous le nouveau maître des lieux que vous partagez avec votre petite équipe et avec 12 femmes, 12 statues qui portent la façade de cet hôtel particulier dans lequel vous vous êtes installé et qui a donné son nom à cette maison, la maison des cariatides. Des murs en pierre, de très belles poutres, un vieux plancher et puis une cuisine ouverte.
Une bonne ambiance en cuisine, voilà, c'est amical mais aussi professionnel. On est tous jeunes, donc tous motivés. Nous, c'est à la cool et ça marche plutôt bien comme ça, donc voilà.
Vous êtes dans le quartier des Antiquaires, ici à Dijon. Pour autant, pas d'escargot de Bourgogne chez vous, pas de lapin à la moutarde, pas de jambon persillé. Qu'est-ce que c'était le menu aujourd'hui du déjeuner?
Alors, on a eu un œuf poché avec une émulsion de lard, des légumes à cru, une salade de poireaux tiède et vinaigrette de gingembre, saumon cuit à basse température, on a eu un filet mignon de porc avec une frigola sarda et une carotte. Et ensuite, un poisson du jour avec un ragoût de céleri et une petite salade de pourpier. Et ensuite, une tarte de saison. Donc là, c'était la tarte au citron meringuée avec des citrons de Nice. On avait aussi la mousse au chocolat avec un petit crumble.
À la fleur de sel.
Oui, à la fleur de sel.
Alors, entrée, plat, dessert pour la somme de
27 euros.
Est-ce que vous avez changé vos prix depuis que vous avez obtenu votre première étoile au guide Michelin, Angelo?
Non, pas du tout. On est resté dans les mêmes, le même type de menu. Donc le menu du midi a strictement pas changé et changera pas. Et le menu du soir changera pas non plus. C'est pas dans l'idée de changer de prix pour le moment.
Cette première étoile, vous l'aviez désirée, vous l'avez recherchée, vous aviez travaillé à l'obtenir?
L'étoile, on n'a pas forcément été la chercher. C'est sûr, étant cuisinier, on pense à cette étoile, forcément. Mais et oui, on est content, mais on n'a pas été la chercher. On ne travaillait pas pour l'étoile. On était au mariage de nos patrons quand on a su la nouvelle. Et du coup, on était tous là, tous ensemble. Et c'était un moment très émouvant et très perturbant. C'était un choc pour toute l'équipe, mais tout le monde a été vraiment content.
Vous étiez au mariage de votre patron, mais donc vous n'êtes pas votre propre patron?
Ah non, donc le restaurant appartient à Thomas Colomb et Lucie Brunet. Donc moi j'ai commencé à travailler avec Thomas il y a 4 ans. Et moi j'avais l'envie que Thomas me fasse confiance et qu'il voit son restaurant évoluer avec forcément ma petite touche à moi parce que je suis beaucoup plus jeune, donc du coup forcément on travaille autrement. Mais les bases sont là, c'est Thomas, c'est Lucie, et on essaye de faire comme eux auraient fait.
Votre première étoile à 23 ans, c'est assez remarquable et ça a été remarqué. Est-ce que c'est un parcours commun que le vôtre, c'est-à-dire commencer dans une cuisine en tant que second, et puis très vite devenir le chef et avoir sa propre étoile?
Alors, j'ai commencé en tant que commis au Cariatide. Déjà, le plus dur a sûrement été pour Thomas de faire confiance à une équipe de jeunes bon, qui a été formée vers lui, mais voilà, c'est peu commun.
Est-ce que vous vous rappelez le jour où les inspecteurs du Guide Rouge sont venus déjeuner chez vous?
Alors oui, je m'en rappelle, ils étaient venus début d'année, une première fois, donc c'était une visite de courtoisie. On a beaucoup parlé, on a parlé de l'établissement, on a parlé de moi-même. Sans parler du repas de l'inspecteur.
En fait, il ne vous a pas dit tout de suite, il ne s'est pas présenté tout de suite comme un inspecteur?
Non, mais... il s'est présenté le lendemain. J'ai dîné hier soir chez vous, je voudrais vous rencontrer pour parler, mais voilà, c'était une simple visite où rien ne s'est dit. Pour moi, c'était foutu. Pour moi, ça ne se jouait pas avec cette soirée-là.
Alors Angelo Ferrigno, depuis que vous avez obtenu votre première étoile, depuis que ça a été rendu public, vous avez plus de monde qu'avant? Le téléphone n'arrête pas de sonner déjà, ça c'est une chose.
Oui, le téléphone n'arrête pas de sonner, c'est sûr. Les gens ont tendance à réserver beaucoup plus en avance. Donc oui, je pense que cette étoile touche aussi niveau réservation. Ouais.
Est-ce que dès lors qu'on a obtenu une première étoile, on rêve forcément tout de suite à la seconde? À la deuxième plutôt?
On rêve déjà de garder la première. Mais forcément, c'est le chemin maintenant, voilà, pourquoi pas avoir deux étoiles. Mais c'est pas non plus le but d'aller chercher la deuxième. C'est déjà de conserver la première, certes, mais tout en conservant nos clients habituels et tout en faisant plaisir aux autres qui viennent nous découvrir.
Donc ça va être pile poil, quoi. À la 12, j'aurai 6 couverts avec 3 œufs, 3 poireaux, poursuivre 4... Scray, 2 mignons, enfin 3 tartes, une crème brûlée, 2 riz. Ouais. C'est la dernière commande. Ouais.
Angelo Ferrigno, 23 ans, une étoile. Je crois que la plus jeune étoilée de France a 21 ans, elle est à Paris. William Frachot, vous aviez quel âge quand vous avez eu votre première étoile? Et surtout, est-ce que vous l'avez vécu aussi à la cool que semble le vivre Angelo Ferrigno?
Alors moi j'avais 30 ans, 33 ans, j'avais 33 ans et je l'ai pas du tout vécu à la cool parce que j'avais une maison assez lourde. Je suis passé de chef avec 4 employés en cuisine quand j'étais à l'étranger, à une maison avec un hôtel de 30 chambres avec 40 employés ouverts 7 jours sur 7, plus un service de réception. Je peux vous dire que le jour où c'est tombé, en plus de ça, il y a eu un malheur dans la région, deux mêmes qui se sont enchaînés, la perte de quelqu'un qui avait une étoile sur la région, en même temps que moi je prenais la mienne, interprétée comme si c'était, en plus j'étais jeune, j'ai amené un nouveau mouvement, donc une fois de plus, le guide Michelin avait pris un coup au passage, vous vous rendez compte, à qui on donne une étoile, on a enlevé à l'identité de la région, enfin j'ai très très mal vécu, forcément les convives qu'on suivit n'étaient pas forcément très sympathiques avec moi.
Il venait quand même chez vous.
Il venait quand même chez moi, à l'époque heureusement il n'y avait pas certains réseaux, j'ai pas passé que des bons moments, et il a fallu trouver sa place.
Et pour autant, est-ce que vous ne l'attendiez pas, cette étoile? Vous n'avez pas travaillé pour l'avoir?
C'était un rêve d'enfance. Quel cuisinier aujourd'hui, à moins quelqu'un qui sera capable de mentir, ne dira pas voilà, je veux être un grand cuisinier, je veux être cuisinier professionnel et le guide Michelin ne m'intéresse pas. C'est de l'utopie et sachez-le, il ment. Non, c'était un rêve d'enfant. Quand vous commencez à rentrer dans... Je n'ai fait que des maisons étoilées, j'ai fait une, deux et trois étoiles, je ne rêvais que de ça et que d'appartenir à ce milieu-là. Et j'ai tout fait pour, et que le jour où c'est tombé, il y a eu cette grande joie qui s'est transformée en grand stress. Heureusement, ça n'a duré que 2-3 mois, le temps de trouver mes marques. Et disons que la première année était un petit peu plus chaotique. Et puis on apprend, parce qu'on en prend. Il faut être câblé, il faut être costaud, parce que c'est une nouvelle vie. On rentre dans une nouvelle dimension, et il faut y faire face.
Pourquoi on rentre dans une nouvelle dimension ?
Parce que vous rentrez dans la gastronomie française. Alors certes, avec une étoile, nous sommes en tout et pour tout 480, 500 et quelques. Là, la deuxième, on est 80. On représente le club des 100 de la gastronomie française. Il y a quelque chose qui pèse sur nos épaules. Il y a un respect, une maturité à avoir face à son travail, face à son attitude et face au guide Michelin.
Et c'est vrai que c'est toujours surprenant d'entendre des grands chefs de la cuisine comme Paul Bocuse dire qu'encore aujourd'hui, il tremble comme un enfant la veille de la parution du guide Michelin. Non, vous croyez que c'est qui dit ça pour le...
Oui, enfin bon, voilà. Je suis pas très convaincu parce qu'il n'ait pas peur. Il va pas la perdre demain, la troisième étoile. Juste pour rebondir sur ce que disait William, je suis d'accord sur le fait que un chef ment quand il dit qu'il vise pas la première étoile, sauf pour ceux qui ne sont pas issus du carcan de la cuisine, en fait, qui n'ont pas fait le parcours classique. Moi, je rencontre beaucoup de chefs qui sortent d'autres secteurs, qui ont décidé par passion et par vocation ultérieure, parce que les parents n'ont pas voulu qu'ils fassent ce parcours scolaire au départ, par exemple, qui arrivent sur la cuisine tardivement. Eux, ils cuisinent juste pour cuisiner, en fait, pour le plaisir. Ils cherchent pas étoiles. S'ils l'ont, c'est pour eux, c'est un cadeau bonus, mais c'est pas du tout ce qu'ils cherchent. Après, oui, un chef qui vous dit qu'il travaille pas pour, William a raison, il ment.
Mais alors, on y travaille, donc évidemment, on travaille ses assiettes, mais est-ce qu'on travaille aussi une certaine forme de diplomatie gastronomique? Est-ce qu'on va chez Michelin? Est-ce qu'on se montre? Est-ce qu'on monte à Paris pour au siège du guide Michelin?
Je pense que c'est... Il y a deux façons de voir les choses. Moi, j'ai des confrères qui ne montent pas. Moi, pour ma part, je m'y attache. J'essaye d'avoir un contact une à deux fois par an. Enfin, il n'y a pas la visite technique, j'essaye de monter. Je garde un contact pour tout, pour montrer que j'existe, pour donner mes envies, pour donner l'évolution de ma maison. Parce que le mot évolution est permanent chez nous et on n'a qu'une envie, c'est de continuer à évoluer. Ce qui serait la mort de tout si demain matin on n'avait plus d'envie, si on arrivait à voilà, les choses sont acquises, on a deux étoiles terminées. Non, je pense que ce qui nous fait vivre, c'est pas uniquement la semaine du mois de février, c'est toute l'année où une maison vibre, évolue et se construit davantage et prend de la maturité.
On entend ça et là des chefs dire, alors souvent off comme on dit, c'est-à-dire moins dans un micro, mais dire que la légitimité du guide Michelin peut être mise à mal, que ne serait-ce que parce que par exemple quand on le feuillette aujourd'hui, il y a plein de pubs, de sponsors, Métro, la grande chaîne de distribution Métro est un des sponsors du guide Michelin. Même vous à 180 degrés, vous faites 192 pages sans publicité.
Sans pub, on en vit très bien.
Ouais. Bon, mais voilà, cette légitimité, elle est quand même souvent remise en cause.
Oui, mais c'est vain, en fait, comme combat. Voilà, il est né avec le siècle précédent, le guide. Et alors, on nous l'annonce avec des scoops à 2,50 francs depuis des années par des petits chroniqueurs du dimanche que c'est bientôt la fin du guide Michelin, etc. etc. Enfin, j'en vois pas le bout de la queue, quoi. C'est impossible. Sinon, la politique de Michelin, ça serait pas non plus de sortir des guides au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche. Enfin, ils ont une assise planétaire, enfin, bien européenne déjà, et bientôt planétaire, avec Hong Kong, avec le Japon, etc. C'est pas, je vois pas pourquoi d'un coup la France s'arrêterait. C'est impossible.
Dominique Loiseau, est-ce qu'on vous a donné des explications, des raisons à la, comment dire, la suppression, la confiscation d'une des trois étoiles qui veillait sur le relais de Bernard Loiseau, ici à Saulieu, dont vous avez pris la direction il y a 13 ans, à la mort de votre époux?
Cela faisait quand même 25 ans que nous avions trois étoiles sans interruption. Ces dernières années, on n'a pas changé grand-chose dans notre manière de faire, dans notre manière de rechercher l'excellence. Mes clients partent contents, toujours. Les avis sur les réseaux sociaux sont bons. Donc, j'ai été très étonnée de constater qu'on nous fasse passer en deux étoiles Michelin. Mais ça se retrouve, hein, vous savez, il y en a beaucoup qui ont perdu et ont retrouvé l'année d'après. Donc, c'est notre défi pour cette année.
Est-ce que vous vous rappelez la visite des critiques du guide Michelin, des inspecteurs?
On ne les voit pas, hein, on ne les voit pas passer. Donc, tous nos clients sont importants. Très honnêtement, chaque client qui repart content vous renvoie des clients. Donc, il faut que chaque client soit heureux parce qu'il est venu pour ça. Il est venu de loin. Il vient pour des célébrations très particulières. Il y a des jeunes qui viennent fêter un diplôme. Enfin, il y a régulièrement des célébrations. Et 50 ans de mariage. Enfin, je suis toujours très touchée parce que quand on participe comme cela à la vie d'un couple ou d'un groupe de personnes, d'une même famille ou d'une société, ça nous donne beaucoup de responsabilités et c'est très attachant parce qu'on est très impliqué avec nos clients.
On disait Bernard Loiseau très attaché à ces couples qui venaient après une vie entière à avoir mis de l'argent de côté, casser leur tirelire pour venir manger chez lui et que c'était auprès d'eux que toutes ces attentions se portaient souvent.
Ah oui, 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 on est toujours très touchés de voir des couples avoir fait un effort financier pour venir chez nous. Et on a aussi, maintenant on se rend compte que beaucoup de jeunes offrent cela à leurs parents. Et souvent des parents qui n'ont pas eu l'habitude de fréquenter ce genre d'établissement. Alors ils arrivent, ils sont très très timides, très inquiets un peu. Et puis finalement, quand ils sont chez nous, comme c'est très détendu, ils se sentent très très bien.
Finalement, la vie des clients vous importe davantage que celui des guides?
Ce ne sont pas les guides qui remplissent nos maisons et qui nous font vivre, hein. C'est sûr que c'est un élément, mais maintenant, je crois que certains clients, quand ils veulent aller quelque part, ils vont voir le site internet de l'établissement, du restaurant. Ils regardent la carte. Enfin, ils sont déjà tellement informés qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte, des éléments de choix. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, les avis des internautes. Il y a toutes sortes de choses, de faisceaux, de choix qu'ont nos clients. Et ça n'est plus du tout comme autrefois un guide qui fait et défait une maison.
Dominique Loiseau, vous avez dit combien la vie de vos clients vous importait, combien les réseaux sociaux pouvaient prendre de l'importance. Il vous est quand même arrivé une drôle d'histoire. Vous avez très récemment gagné un procès contre un site internet ou une personne physique, je ne sais pas exactement, qui avait publié un avis négatif sur votre restaurant L'Oiseau des Ducs à Dijon, lequel commentaire avait été publié la veille de l'ouverture?
Oui, nous avons ouvert un mardi et le vendredi et samedi précédent, il y avait sur les pages jaunes déjà un avis qui était très virulent, qui démontait ce restaurant. Et là, j'ai trouvé
qui disait quoi ?
Qui disait que le service n'était pas bon, que dans l'assiette, la seule chose dans l'assiette qui était bien, c'était l'addition. Enfin, des choses vraiment pas bien. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très injuste de critiquer un restaurant qui n'est même pas ouvert. Donc, avec ma directrice générale, on ne s'est pas démonté. On a fait constater l'écran, la page de l'écran par un huissier. Et puis ensuite, il y a eu une procédure qui a mis des mois et des mois parce qu'il a fallu trouver quelle personne a laissé cet avis, donc trouver son ordinateur, trouver son nom. Donc la procédure s'est faite. On a trouvé que c'était quelqu'un de Dijon qui ne doit pas fréquenter beaucoup de restaurants, je pense, et qui s'amusait un peu. Mais comme c'était les pages jaunes, moi, les pages jaunes, c'est quand même un site assez sérieux pour nous, de se voir démonter et après cet avis va rester un certain temps. C'est quand même pas, c'est pas bien parce que ça vous, ça crée un doute sur votre établissement. Et puis, ben là, là, au bout de 2 ans, là, le jugement est tombé et la personne a été condamnée. Mais c'est vrai qu'au niveau communication, nous avons quelqu'un qui est à temps complet sur Internet pour surveiller notre site, pour voir tout ce qui se dit sur nous, sur les sites d'internautes, pour répondre à des avis qui sont négatifs. Il faut répondre, il ne faut pas laisser un avis comme cela. S'il y a des raisons, s'il y a des explications à donner, il faut les donner. L'établissement est sur Twitter, à son Facebook, donc il faut alimenter ses supports tous les jours. Donc c'est un travail à temps complet. Alors qu'autrefois, il y a 25 ans, on avait plutôt un commercial qui faisait du démarchage. Ça, c'est totalement terminé. Voyez-vous, ça permet une réactivité très importante.
Bon, alors sur les réseaux sociaux, c'est tous pour la troisième étoile en 2016.
Ah oui, enfin 2017.
2017.
Puisque le guide va sortir dans un an. Mais nous, on a envie de la retrouver, oui, parce qu'on a toujours voulu être au top, toujours dans l'excellence. Donc, et puis au bout de 25 ans, c'est difficile de se dire maintenant on est moins bon, on sait moins bien faire. Pas du tout. Donc il faut se donner le but de la retrouver. Et ça fait du bien à tout le monde et ça rebooste tout le monde.
Est-ce que le fait que vous soyez passé en catégorie 2 étoiles vous a fait perdre du monde depuis la publication du Michelin? Est-ce que la fréquentation est moindre ici au Relais de l'Oiseau, de Bernard Loiseau?
Alors, depuis la publication des résultats le 1er février, eh bien écoutez, nous n'avons eu aucune annulation. Nous avons pris plein de réservations pour la réouverture. On a eu un nombre de clients bien plus important à la réouverture. Et puis, on a eu des centaines de lettres, de courriels, de soutien. Et ça fait beaucoup de bien. Et ça rassure beaucoup aussi.
Et ça fait prendre de la distance par rapport à ce système-là?
Moi, j'ai toujours eu de la distance. Vous voyez, Bernard, lui, à 15 ans, avait décidé d'avoir 3 étoiles. 3 étoiles, c'était toute sa vie, c'était son obsession. Il ne pensait qu'à ça parce que c'était un chef. Moi, je suis restauratrice, c'est-à-dire que je supervise un restaurant, un hôtel, des restaurants. Donc, moi, c'est plutôt une prestation globale qui compte et pas uniquement des étoiles. Voyez-vous? Mais c'est vrai que placé à Saulieu, vous déplacerez toujours un peu plus de monde avec 3 étoiles. Hein, c'est ce qu'on peut se dire. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire, avec 2 étoiles, on effraie peut-être moins certains clients. Voyez-vous, qui vont se dire, c'est peut-être plus facile d'y aller. Dans un 3, c'est peut-être plus guindé. On va voir. Il faut qu'on surveille au fil des mois.
Dominique Loiseau, est-ce que quelque part, vous en voulez un peu à ces faiseurs de rois, ces faiseurs de gloire, comme l'ont dit à l'époque les amis de votre mari, qui, au moment de son suicide, ont dit, c'est la faute aussi de... Alors, en l'occurrence, Michelin n'était pas en cause, puisque les 3 étoiles étaient conservées, mais Goemio avait baissé sa note.
Disons qu'il y en a certains qui en ont profité pour régler leur compte avec les guides. Moi, je n'ai strictement rien dit. Je n'ai accusé personne. Parce que, voyez-vous, Bernard n'avait pas été le seul à perdre un point chez Goemio. Il y en avait 6 ou 7. Donc, les autres n'ont pas réagi comme lui. Lui, c'est un cas particulier, comme je vous l'ai dit, avec une relation très particulière avec ses notations. C'était toute sa vie. Et puis, c'était quelqu'un de bipolaire, qui avait une maladie qu'on n'avait pas bien détectée. Et pour nous, il était jovial, il exagérait tout. Mais on ne connaissait pas bien ses symptômes qu'on aurait pu traiter si on avait vraiment su que c'était ça, voyez-vous. Donc, il faut vraiment relativiser. Et moi, je suis beaucoup mieux placée pour le faire que des chefs qui se jaugent un peu entre eux à travers des notations et des classements et des étoiles et autres.
Sur la route des étoiles de la gastronomie en Bourgogne, nous sommes dans les studios de France Bleu à Dijon avec William Frachot, chef propriétaire de l'hostellerie du Chapeau Rouge, et le journaliste Philippe Toinard. Alors William Frachot, si ce n'est pas un guide en particulier qui vous l'impose, cette pression de l'excellence, ce sont les chefs eux-mêmes sans doute qui se la mettent tout seuls. En fait, vous les avez en permanence dans les yeux, ces étoiles, et notamment je pense aux 10 ans qui ont séparé votre première étoile de votre deuxième. Ouais. C'était un but constant? C'était une pression constante que vous imposiez?
La deuxième étoile, l'envie de la deuxième étoile est arrivée beaucoup plus tard. J'avais un souci, c'est que j'avais une grosse maison. Il a fallu du temps à façonner le personnage que je suis aujourd'hui. Et ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Et on peut pas être au four et au moulin. Et la cuisine, on maintenait l'étoile. On était une étoile forte. Ce qui me convenait à un moment donné, vous savez, en parallèle, il y a aussi l'homme qui doit, il y a l'humain qui existe, il y a l'homme qui doit grandir, qui doit aussi vivre. Ce n'est pas qu'un sacrifice non plus, c'est un mode de vie, c'est un art de vivre. Et pour ça, il faut du temps et ça se façonne. Et puis, il y a eu le moment où je me suis senti prêt pour aller un petit peu plus loin. Et c'était, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je sentais que j'avais l'équipe pour y aller. Et on s'est posé les questions, les bonnes questions. Et puis, on avançait sur cette deuxième étoile.
Entre parenthèses, vous avez dû changer des choses dans votre cuisine entre la première et la deuxième étoile?
Pour ma part, tout.
Tout?
Oui.
C'est-à-dire?
Ma vision, ma façon de penser, d'être beaucoup plus lisible, d'en faire moins, de pas essayer de vouloir surprendre, choquer à tout prix. C'est venu suite à un accident où je me suis retrouvé suite à une cheville cassée, immobilisé de force. Et les deux premières semaines, je les ai passées sans contact extérieur, média, téléphonique. Et là, je me suis aperçu que mon corps était énormément fatigué. Ça faisait une dizaine d'années que je subissais mon entreprise. Les crises qui ont été celles de 2008, qui m'a permis de fermer 2 jours semaine, malheureusement de licencier, de réduire un petit peu la voilure, de prendre des décisions. Et là, je me suis retrouvé enfin au repos complet et forcé. Et je me suis mis à réfléchir et à penser. Et là, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur mon travail, sur qui j'étais, où je voulais aller. Et je vous cache pas que j'ai eu un petit peu peur à certains moments donnés. J'ai dit, tiens, si j'ai cessé, et ça en rentrant. Et c'est ce qu'on s'est attelé à faire. Et ça a été formidable. Et cette sensation, on veut continuer à la garder, continuer à évoluer.
Philippe Toinard, il y a aussi certains chefs qui, parfois, dans leur vie, ont l'occasion de se poser, de réfléchir et qui se disent tout d'un coup, mais si je les fichais à la poubelle, en fait, ces étoiles, ça arrive. Il y a des grands chefs qui se sont débarrassés, entre guillemets, de leurs étoiles.
Oui, il y en a qui. Enfin, le truc, c'est que c'est un mode de communication de dire je rends mes étoiles, parce qu'en fait, c'est pas eux qui rendent les étoiles, c'est Michelin qui décide. Donc voilà, ils décident si oui ou non on accepte le fait de les rendre. C'est pas tout à fait la même.
C'est-à-dire que c'est eux qui vont dire on va prendre des produits un peu moins.
Si c'est argumenté en disant, parce qu'il faut pas oublier non plus, certains ont rendu l'étoile juste après l'apparition du guide, ce qui fait que ça leur permet de garder l'étoile par exemple pour l'année. Donc ça, c'est pas très bon joueur, c'est pas très fair play. Donc si on veut l'enlever, on l'enlève. Et on dit, vous me l'enlevez avant l'apparition. On ne dit pas au mois de mars, une fois que le guide est sorti. Ça, il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. Donc on peut effectivement, entre guillemets, les rendre. Mais il faut argumenter et dire au guide Michelin, voilà, j'ai envie de faire autre chose. Je veux faire du bistrot ou je veux faire un gastro plus cool sans nappe ou autre. Enfin, ils ont leurs arguments. Et il y en a qui s'y sentent très très bien, qui font un petit pas de ce côté-là parce qu'ils ne l'ont pas fait pendant toute leur vie et qui ont envie de s'amuser avec de la cuisine en cocotte, comme je l'ai pu le voir en Alsace chez un ancien étoilé qui du jour au lendemain décide de cuisiner tout en cocotte et il s'amuse. Ça ira un temps, peut-être qu'au bout d'un moment, j'y retourne. On verra.
Bon, William Frachot, vous parliez de façonner votre image. Vous dites, j'ai pris le temps de façonner l'image de celui que je suis aujourd'hui. Et Dominique Loiseau évoquait l'importance aujourd'hui de mettre le paquet sur la communication. Aujourd'hui, vous, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes attentif aux commentaires qui sont postés sur Internet?
Alors, quand je parlais de l'image, je parlais de ma personnalité. Non, ce côté com et média et mes frais me fait peur. Ça va très vite, trop vite aujourd'hui. On le voit chaque jour. Les choses sont dites, des influences sont données. Il en faut, donc j'en fais un minimum. Mais je suis très frileux avec ça aujourd'hui. Et de toute façon, il n'y a qu'une chose qui prime, c'est le travail, point barre. être chez soi, présent dans sa cuisine avec son équipe et donner le là.
Position assez rare que celle de William Fréchot. En fait, Philippe Thoinard, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent quand même qui est mis sur la table pour la communication.
Il y a deux niveaux de communication. Il y a ceux qui ont vraiment de l'argent et qui peuvent s'offrir les services d'une attachée de presse, par exemple, à l'année. Encore faut-il avoir un discours et quelque chose à raconter toute l'année, parce qu'il ne s'agit pas juste d'envoyer un dossier et d'avoir rien à raconter derrière. Donc, au moins, on rappelle aux journalistes qu'on existe, ce qui est plutôt pas mal de le faire une fois de temps en temps. Ça coûte un petit peu, mais c'est bien de rappeler aux journalistes qu'il n'y a pas qu'un tel, un tel et un tel. Il y a aussi moi, je suis là. Après, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau métier, que sont les community managers, c'est-à-dire c'est ceux qui gèrent les Facebook, les Twitter et autres réseaux sociaux, sur lesquels, moi, je trouve que les chefs ont leur légitimité. Alors, à titre professionnel, moi, ça me sert tous les jours. Alors, il ne faut pas confondre non plus de raconter la vie de son restaurant et sa vie perso, parce que...
Oui, on voit tout.
Voilà, on ne peut pas mettre non plus ses enfants sur le... Quand on est en vacances et qu'on fait du ski, c'est sympa, mais ça, il faut le garder pour un autre profil. Il ne faut pas mélanger les choses.
Est-ce que c'est aussi important d'y être? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de bons restaurants, entre guillemets. Là, je ne parle plus d'étoiles, les étoiles ne comptent plus, mais on mange bien partout.
Alors, on se démarque parce qu'on est présent, sauf que de plus en plus de chefs y sont. Donc, au bout d'un moment, on va dire que tout le monde y est, donc on se démarque moins. En revanche, ça peut permettre de faire sortir quelques pépites que les médias n'avaient pas forcément repérées, que des gourmands qui sont allés dans les restaurants ont posté régulièrement des plats de chefs qu'on a vus. Et là, il y a un intérêt qui se fait parce qu'on se dit... C'est qui? D'où il sort? On l'a jamais vu encore, etc. Et en fait, ça veut dire que le public a une petite en avance sur nous, journalistes, ou sur ses confrères, les chefs. Et donc, voilà, ça peut parfois permettre de faire sortir une pépite. C'est rare, mais ça peut arriver.
Une pépite que les inspecteurs du Guide Michelin iront voir après.
C'est toujours en retard.
On a fait une grosse partie des travaux ici, nous-mêmes, donc le sol qui n'existait pas. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai posé de la pierre. On connaît aujourd'hui chaque centimètre carré du sol, chaque millimètre de tout ce qu'il y a dans cette maison. Plein de choses qu'on a fait nous-mêmes. Avec bien sûr l'aide de nos familles, mon beau-frère, on était deux pour poser tout ça. Ouais.
Eh ben, racontez-nous ça, Olivier Streff. Vous êtes à quelques jours de l'ouverture de votre restaurant ici dans le centre-ville de Beaune, le Relais de Sceaux. Ouverture prévue mardi. Qu'est-ce que c'était ici avant que vous n'achetiez le lieu?
En fait, ça a toujours été plus ou moins un établissement qui recevait des personnes. C'était un relais de poste. Donc ça a quelque part toujours été un restaurant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a gardé le nom. Je pense que, comme on le dit si bien que Nina, on n'est qu'un maillon de cette chaîne. Il y aura quelqu'un après nous aussi.
Vous citez souvent Nina, qui est votre compagne dans tous les sens du terme, puisqu'elle vous accompagne vraiment dans cette aventure, l'ouverture d'un restaurant, le vôtre.
Bon, il paraît que j'ai hérité de la cuisine, mais je peux peut-être essayer de faire la salle.
C'est une aventure, Olivier Streff, qui a commencé il y a plusieurs mois déjà. Vous étiez un candidat de l'émission Top Chef. Alors, pour moi qui ne regarde pas Top Chef, vous m'expliquez ce qui s'est passé. Vous avez été présent sur combien d'épisodes?
Oui, on peut appeler ça candidat, mais je dis toujours que j'existais déjà bien avant, parce que j'ai commencé à 14 ans, j'en ai bientôt 40, donc j'existais bien avant Top Chef. Et le concours, l'émission, c'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Donc quand ils sont venus me chercher, je leur ai dit « Mais moi, une télé-réalité, ça m'intéresse pas. Si vous venez juste me chercher pour ma gueule, ça m'intéresse pas non plus. » Et c'est vrai qu'ils m'ont assuré que non, et je regrette pas aujourd'hui, et eux non plus, je pense.
Vous étiez où à l'époque, quand ils sont venus vous chercher?
J'étais à Beaulieu-sur-Mer, j'ai fait quasiment une grosse partie de ma carrière sur la Côte d'Azur.
Et alors, est-ce que cette médiatisation vous a permis d'ouvrir ce restaurant? Est-ce que ça a vraiment été un point de départ?
Non, c'était pas un point de départ, je pense surtout, c'est que ça a été dans la continuité, quelque part. J'ai déjà eu un établissement il y a quelques années et ça n'a pas été une grande réussite. Donc j'avais dit plus jamais. Et on a vraiment voulu quitter Paris parce que, voilà, suite à Top Chef, j'ai fait une tournée, j'ai fait pas mal de choses. Et je voulais un peu me sortir des cuisines et finalement, c'était pour mieux y rentrer à nouveau. Et Nina, un jour, m'a dit « Bon, bah écoute, on quitte Paris et... » Pourtant, j'ai eu énormément de propositions. Elle m'a dit « Pourquoi pas la Bourgogne ?» J'ai dit « Ok, pourquoi pas ?» Et on pensait jamais atterrir sur Beaune. Ça, c'était pas un objectif ni un point précis. Ouais.
Même si votre femme, donc Nina, est de Beaune, et d'un petit village près de Beaune.
Exactement. Nina est de Beaune et plus précisément de Nantoux.
Bon, c'est une sacrée aventure, puisque
pour ouvrir un restaurant, il faut forcément investir pas mal. Il faut convaincre la banque de faire un prêt. Il a fallu commencer par ça.
J'avoue que, encore une fois, là, la médiatisation, enfin, tout le process qu'il y a eu après Top Chef, il y a des choses qui sont plus faciles. Peut-être que si on m'avait vu avec cette gueule-là précédemment, et on m'aurait dit, bon, ok, investir sur lui, c'est peut-être pas gagné. Mais là, oui, il y a tout un système qui s'est mis en place et les gens nous font confiance, mais tout le monde, hein, on voit même Denis, notre électricien, qui est en train de nous dépanner, alors qu'il y a une petite fuite et c'est tout le monde met la main à la pâte et je trouve génial, c'est tout le monde y met sa petite touche.
Vous dites souvent, quand on m'a vu avec cette gueule-là, parce que donc, votre gueule à vous, c'est la gueule d'Olivier Strève, donc c'est un look très gothique, ce sont des habits noirs, ce sont des yeux grimés, c'est une mèche façon Indochine, un peu. C'est pas le look des cuisiniers tels qu'on les imagine dans les restaurants gastronomiques.
Oui, c'est sûr, j'en ai pas croisé un autre comme moi, alors j'espère en croiser plusieurs comme ça. Je pense que pour pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir être soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore eux-mêmes. Il faut juste qu'ils puissent se libérer. Moi, aujourd'hui, je suis très bien dans mes baskets.
Comment ça va se ressentir sur la carte ?
Pas de carte. Aujourd'hui, je travaille avec une ardoise. Donc, c'est vrai qu'au nouveau mardi, je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Peut-être qu'à 11h30, on pourra noter quelque chose. Mais je pense que l'idée vient vraiment de la nature. Ce n'est pas moi qui décide, c'est aussi tous les collaborateurs avec qui aujourd'hui on a décidé de travailler, donc que ce soit les légumes bio, que ce soit, enfin tout. Le but, c'est vraiment de travailler avec les locaux en plus, donc on verra ce qu'ils m'apportent. C'est eux qui vont décider, c'est la nature qui va décider, pas moi.
Mais alors, qu'en diront, à votre avis, les inspecteurs du Guide Rouge quand ils passeront par chez vous ? Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée, ça ?
Je ne me la pose plus. L'important, c'est que mes clients soient contents, c'est qu'ils viennent et qu'ils reviennent. Et avec ou sans étoile, avec ou sans récompense.
Donc c'est quand même un monde, celui de la gastronomie, où on peut rester un tant soit peu libre. Ce n'est pas qu'un monde cruel. L'image qu'on a, c'est celle-là quand même.
Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec cette image. Ça peut être cruel, mais tout dépend de l'importance qu'on donne aux choses. Aujourd'hui, je ne donne pas plus d'importance au guide Michelin qu'au guide Goemio. Même si Goemio nous a aidés dans cette aventure avec la dotation, mais c'est pas pour autant que le jour où ils seront là, on cherchera à être mieux notés ou autre. Non, on est totalement libre. Si je mérite, si nous méritons, tant mieux. Si on ne mérite pas, tant pis. Puis si on mérite et qu'on n'a pas, bah tant pis encore une fois. Je sais, c'est plus une quête véritablement. Aujourd'hui, la quête de la liberté, c'est la satisfaction, c'est le regard des personnes qui vont venir nous voir.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez longtemps échapper au star system, entre guillemets, dont vous êtes issu en quelque sorte, même si vous viviez, si vous aviez une vie avant Top Chef, vous avez été connu par Top Chef aussi ?
C'est sûr qu'on se sent peut-être un peu plus épié. Je suis en train de préparer un livre et l'idée générale du livre était de se dire on va faire toutes nos courses en supermarché, marché et autres pour que toutes les recettes soient vraiment réalisables et que tous les produits, on puisse les trouver. C'est vrai que j'ai eu des commentaires de me dire « Ah, tiens, vous achetez ça, vous, pourtant...
Donc vous écrivez un livre de recettes. Je crois que vous lisez beaucoup aussi, avez-vous souvent dit. En fait, vous êtes beaucoup trop occupé pour devenir cuistot étoilé.
Certainement. J'ai pas que ça à faire à regarder le Michelin, ça c'est sûr. Je préfère lire Oscar Wilde ou Nietzsche plutôt que le guide Michelin, ça c'est certain.
Deux salariés, 11 tables, pas de nappe chez Olivier Streff. On ne veut pas un gastro, dit-il. William Frachon, on peut les tenir des résolutions comme celle-là dans un monde forcément dur de la gastronomie.
Chacun fait comme il veut. C'est le principal. Et ce qu'il a envie, comme il l'a dit, trouve son identité. J'ai pas de mèche Indochine, je m'y retrouve pas avec ça. Lui, c'est son truc. Je respecte entièrement. C'est un excellent cuisinier du peu que j'ai pu voir et entendu. Je suis très fier et très heureux d'avoir une pointure et quelqu'un de nationalement connu qui arrive dans la région. Ça ramène une corde supplémentaire à notre arc bourguignon.
Ouais, c'est marrant, tous les chefs disent ça. Moi, je pensais que ce serait une concurrence, mais non, en fait, vous êtes tous très contents. Philippe Tonnard, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est par rapport au fait pas de nappe, etc. On écoutait en début d'émission Angelo, sa maison étoilée Michelin, la maison des Cariatides à Dijon. Bah, c'est des tables de bois brutes, il n'y a pas de nappe. Les serveurs sont avec des baskets blanches, des petits pantalons noirs. Chacun sa gastronomie, chacun son style. Et puis le Michelin, maintenant, il décide d'en donner une ou pas, à ce que disait William en début d'émission, à un chef à travers sa cuisine. Qu'on soit ensuite servi avec des baskets, moi, ça ne me choque plus.
Mais au moins qu'il y ait une identité.
Voilà, ça leur ressemble, tant mieux qu'ils continuent comme ça.
Est-ce que la télé est un passage obligé maintenant? C'est Christian Le Square du Georges V qui dit « Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut montrer sa bouille. Les gens ne consomment plus de la cuisine, ils consomment des cuisiniers. » Alors, est-ce qu'on va à l'hostellerie du Chapeau Rouge ou est-ce qu'on va chez William Frachot?
On va de plus en plus chez William Frachot et j'en ai fait une crise identitaire il y a 4 ans où j'ai mis le restaurant William Frachot pour bien scinder avec l'hostellerie. Effectivement, la télé, mais la télé n'est pas accessible à tout le monde, malheureusement. C'est une bombe, c'est médiatiquement un tremplin formidable. Chaque émission de télé où j'ai l'occasion, et prochainement c'est Des Racines et des Ailes pour pas la citer, le 13 ou le 16, je ne sais plus, à chaque fois et chaque émission, c'est une répercussion immédiate, c'est déjà en plus de ça une reconnaissance nationale, et effectivement c'est important, il ne faut pas négliger, c'est formidable, mais on n'y rentre pas comme on veut.
Philippe
oui,
Zola.
Parce que ça ne concerne que... il a raison, Christian Lesclerc, William aussi, il a raison. Si les occasions se présentent, il faut en profiter. C'est pour mettre en valoriser sa maison, valoriser une cuisine, une région. Il a raison de le faire. Mais c'est juste quelques chefs qui peuvent le faire. Voilà. Il y a des milliers de chefs en France. Il y a des milliers de tables. Je crois qu'il y a 14 000 restaurants rien qu'à Paris. Il y en a 10 qui font la télé. Et il en reste 13 990 qui mettront jamais leur bouille. Et eux, il faut qu'ils, pardonnez-moi l'expression, il faut qu'ils se démerdent sans la télé.
William Frachot, vous allez commencer à voir arriver dans vos cuisines les lettres de motivation et les demandes de stage que vous allez recevoir d'une génération formée par Top Chef, formée en tout cas, qui a eu envie de venir dans ce milieu-là parce qu'elle a regardé Top Chef.
Alors formée, c'est un bien grand mot.
Oui, certes.
Aujourd'hui, nous avons un rôle de formateur. Je le viens de le vivre et je le vis d'autant plus. Les CV n'abondent pas autant que j'en le souhaiterais. Il y a un problème, je pense, national à ce niveau-là. Il y a qu'à voir les Facebook de tout le monde chaque matin. Cherche ici, cherche là. Je n'ai pas de CV de salle depuis plus de 3 mois, alors que nous cherchons du monde. Et les jeunes que je viens de rentrer en cuisine aujourd'hui, et j'ai de la chance, ce sont des jeunes motivés, passionnés, mais qui, tout doit être fait, formé et dégrossi. En revanche, je suis très fier, au lieu d'embaucher 2 personnes, j'en ai embauché 3. On va faire de la formation, je vais essayer d'asseoir mon équipe pour les 3 prochaines années, mais nous sommes en carence complète de gens formés. Alors heureusement qu'il y a eu Top Chef, mais j'aimerais bien qu'il y ait Top Salle et Top Restaurant, parce qu'on... Il n'y a pas que la cuisine dans nos maisons.
Eh bien, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup, William Frachot, du restaurant, donc chef propriétaire du restaurant de l'Hostellerie du Chapeau Rouge, 2 étoiles à Dijon, c'est dans le centre-ville, rue Michelet. Et merci à vous, Philippe Toinat, rédacteur en chef de cette très belle revue 180 degrés, que l'on peut acheter en librairie, dans les épiceries fines. Le numéro 6 est en vente en ce moment, et hors-série aussi, que vous pouvez nous présenter en 2 mots, le premier hors-série.
Le premier hors-série sur toutes les personnes qui ont fait une reconversion dans le monde de l'alimentation. Ils étaient communicants, gendarmes, ils sont devenus apiculteurs, paysans ou chefs de cuisine.
Ou chef étoilé. Voilà, nous mettons les références en ligne sur la page de Sur la Route, sur le site de France Culture, page à nouveau accessible aux commentaires, donc allez-y. Voilà, vous pouvez commenter l'émission comme on commente un bon restaurant. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et nous suivre sur nos comptes Twitter et Instagram. Oui, nous aussi. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisy au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Bourgogne pour son accueil. À la technique, c'était Jean-François Métro. La semaine prochaine, nous serons dans le quartier de Maurepas à Rennes avec le poète breton Yvon Lemaine qui a passé 3 mois en résidence et qui raconte ses voisins, la promiscuité, le bruit, la vie dans ce quartier où se mêlent les langues, les nationalités et les hommes sur la route d'une cité en prose dans le cadre d'un week-end spécial poésie sur France Culture à l'occasion du printemps des poètes. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.